gloire à Dieu. Voilà, j'aimerais poursuivre un peu sur le thème de la personne et surtout l'œuvre de Jésus dans notre cœur. Ce que Dieu fait est profond, ce que Dieu fait est durable, ce que Dieu fait est éternel. Quand Dieu agit dans un cœur, nous l'avons vu dans Ésaïe 53, l'œuvre de Dieu se poursuit. Dieu avance, son œuvre avance et nous voulons le bénir. Voilà, j'aimerais lire avec vous dans la première épître de Jean, chapitre 2, 1 Jean 2, à partir du verset 28, 1 Jean 2, 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. J'aimerais rajouter dans le chapitre 4 de cette même épître, chapitre 4, et nous lirons à partir du verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Tout au long de son enseignement, Jésus nous a révélé dans les évangiles, eh bien, le salut est révélé, il est proclamé. Dans les actes des apôtres, ce salut, il est propagé. Dans les épîtres, ce salut, il est expliqué. Et nous nous apercevons que dans ces dernières épîtres, eh bien, ce salut, il est bientôt manifesté. Nous savons que Jésus revient bientôt. La Bible nous le dit, bien sûr. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais nous savons que Jésus revient. Si nous avons un regard biblique aussi sur les événements qui se passent, eh bien, nous apercevons qu'il est à la porte. Il revient bientôt. Et le Seigneur nous appelle à être prêts. Il nous appelle pas seulement à se préparer, mais à être prêts pour son prochain retour. Ce n'est pas un automatisme de partir avec le Seigneur, mais c'est une préparation, c'est se laisser préparer par lui, il agit et le Seigneur veut vraiment. Et il nous parle dans les évangiles des générations qui seront avant son retour, son avènement. Il nous est parlé de la génération comme ceux de Lot, comme ceux de Noé. Les gens, eh bien, ne prendront pas garde, ils vivront pour eux, ils se mariaient, mariaient leurs enfants, il n'y a rien de mal, c'est légitime, mais ils achetaient, ils vendaient, en fait, ils faisaient tout, mais pas pour le royaume. Et ils ont été surpris que le Seigneur nous donne, nous, de vivre pour le royaume, que le Seigneur nous donne de nous préparer pour un jour régner avec lui. Et ce que nous aurons fait de notre vie pendant tous les jours, toutes les années que nous avons vécues, eh bien, c'est ce que nous retrouverons au dernier jour. Il n'y aura pas de surprise. Si nous n'avons pas vécu avec le Seigneur, nous ne partirons pas non plus avec le Seigneur. Et cela nous appelle. Avec quoi avons-nous bâti notre vie? L'apôtre Paul parle de ces choses dans 1 Corinthiens 3,13. Il dit « Car le jour la fera connaître parce qu'il révélera et à la fin, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. » L'œuvre de Dieu dans notre cœur, elle est suffisante. L'œuvre de Dieu dans notre cœur, elle est puissante. La parole et l'esprit conjugués, cette œuvre, elle est puissante. Cette œuvre, et j'aimerais là ce matin que nous puissions nous arrêter quelques instants sur avoir de l'assurance au jour de son avènement. Avoir de l'assurance, être prêt, être debout, être sur pied, être les regards fixés sur Jésus le jour de son avènement. Et nous allons voir quelques éléments ensemble qui nous permettent d'avoir cette assurance. Dans notre texte, l'apôtre Jean parle de ce jour où Jésus va paraître. Il parle de son avènement et c'est pour bientôt, frères et sœurs. Jésus est en train de préparer son épouse, l'Église, pour son prochain retour. C'est le temps où le Seigneur prépare. De tout temps, il a préparé, mais là, on dirait qu'il y a une accélération. Dieu prépare nos cœurs pour son retour prochain. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous avons de l'assurance? Est-ce que nous avons une conviction inébranlable que si Jésus revient, nous partons avec lui? C'est ça la question de... c'est pas le fait de d'autres considérations, mais celui qui a écrit ces trois épîtres, les trois épîtres de Jean et l'Apocalypse, est un homme dans lequel l'œuvre de Dieu s'est faite. Et cette œuvre a été profonde, elle a été durable. Et nous nous apercevons que c'est beau d'avoir des témoignages d'hommes et de femmes dans la Bible qui ont reçu le salut, qui l'ont mis en œuvre, en application, et ce salut a produit un fruit extraordinaire. L'apôtre Jean, pour rappeler le contexte, ça se situe aux alentours de 90 après Jésus-Christ, il a environ entre 90 et 95 ans. Donc vous voyez un peu, c'est un vieillard qui est là, il est déporté, il est sur l'île de Patmos. Quand on dit l'île de Patmos, pour y être allé, c'est un caillou, il y a 3 km sur 2. Il est sur cette île, il est en déportation. On pourrait dire, du point de vue humain, c'est un échec. Personne arrivé à un âge comme ça, il est déporté, il est sur cette île, il est dans la solitude. On pourrait dire, du point de vue humain, c'est un échec. Mais, du point de vue spirituel, quelle victoire! Quelle vie réussie! Alors que sur ce caillou, sur cette île, toute petite, Jean va recevoir de la part de Dieu des choses tellement glorieuses. Il va voir le ciel ouvert, il va voir Jésus, il va avoir cette révélation de l'Apocalypse, des temps à venir. Alors qu'il aurait pu se lamenter sur cette île, il aurait pu dire « mais j'ai prêché l'Évangile, je me suis occupé des autres et maintenant je me retrouve sur cette île en déportation ». Mais non, il vivait pour le Seigneur, le salut avait œuvré, l'œuvre de Dieu était profonde dans son cœur et il a été utile pour ceux de sa génération, ceux qui ont reçu ces lettres, mais il est utile pour nous. Nous recevons ces lettres-là, nous lisons ces lettres, et elles nous font du bien de savoir que c'est de la part de Dieu que cet homme a reçu des choses glorieuses et profondes. Le Saint-Esprit agissait parce que Jean était disponible, il était disposé. Ses états d'âme, son cœur, sa solitude, il n'a rien mis de tout cela, rien. On ne trouve aucune trace où il se plaint de quoi que ce soit, mais ce qu'il a, c'est qu'il glorifie le Seigneur. Et son désir, c'est que tous les croyants soient sauvés, que tous ceux qui formaient les églises soient sauvés. Et il le fait avec une maîtrise, lorsqu'il paraîtra que nous ayons de l'assurance. Alors, quelle est notre assurance, notre certitude, notre approbation de Dieu? Où pouvons-nous l'épuiser? Nous ne pourrons pas mettre en avant le fait que nous avons été baptisés. Nous ne pouvons pas mettre en avant seulement le fait que nous fréquentons une église. Nous ne pouvons pas mettre en avant le fait que nous lisons la Bible. Nous ne pouvons pas mettre en avant le fait que nous prions. Ce n'est pas ces éléments-là qui vont nous donner de l'assurance et des certitudes. Ça peut à la limite apaiser notre conscience, mais ce n'est pas ça. Et nous allons voir ce qui peut nous donner de l'assurance et des certitudes pour que le jour de l'avènement du Seigneur, nous ne soyons pas confus, honteux, éloignés, mais que nous ayons de l'assurance et que nous puissions partir avec le Seigneur. Dans cette épître, dans la première épître, l'apôtre revient sur ce qui est fondamental, ce qui est profond, ce qui est de la vie spirituelle, des évidences. Dans le premier chapitre, je balaye rapidement, mais il faudrait le méditer, mais dans le chapitre premier, il nous parle de la communion avec le Père et avec Jésus. Il nous parle de marcher dans la lumière. Il nous parle du sang de Jésus. Il nous parle de notre avocat. Il nous parle de la victoire à cause de la parole. Il nous parle, des séductions à éviter. Il nous parle du discernement des esprits. Il nous parle de l'amour de Dieu. Et au chapitre 5, il nous parle de la foi véritable, la prière véritable. Vous voyez, il revient sur les fondamentaux, ce qui est essentiel. Et je crois que nous vivons des temps où il faut se recentrer sur l'essentiel, sur ce qui est fondamental. Tout le feuillage disparaîtra, tout le bruit disparaîtra, toutes nos paroles vaines disparaîtront, mais nous recentrer sur l'essentiel. Ce qui nous donnera de l'assurance, ce n'est pas en nous. Ne vient pas de nous, mais vient de Christ. Et c'est lui, et lui seul, qui peut nous donner cette assurance. La foi en Jésus, dans la grâce, vivre dans cette grâce. Nous connaissons le chapitre 8 des Romains, j'aimerais juste lire quelques versets. Voilà, que nous ressortions de ce lieu en disant, voilà, maintenant je sais où puiser mon assurance, mes certitudes. Romains chapitre 8, nous lisons au verset 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que nous le disons, mais c'est le témoignage intérieur du Saint-Esprit qui atteste que nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons le même esprit que Jésus. Et un petit peu plus loin dans le même chapitre 8, nous voyons au verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Amen. Et ça, c'est un fondement, c'est basé non pas sur ce que nous pouvons, mais sur l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, qui est évidente et qui est agissante. Il y a le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est la base de notre assurance. Je dirais que c'est le plus important, le sang de Jésus. C'est notre l'expiation, c'est notre rachat. Le sang de Jésus, il nous lave et nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous justifie devant Dieu. On ne peut pas dire, voilà, moi j'ai fait ça, mais c'est Jésus qui a fait pour nous. Le sang de Jésus nous lave et nous purifie. Il nous donne la victoire. Juste un ou deux versets, dans l'Apocalypse au chapitre 12, verset 11, il est dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole du témoignage, ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. » Ils l'ont vaincu, non pas avec leur force, non pas avec leur arme, mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, le sang de Jésus. A une puissance extraordinaire. Le sang de Jésus a une efficacité encore aujourd'hui. D'ailleurs, dans 1 Pierre 1,18, il dit « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. L'apôtre dit que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre pour vivre en nouveauté de vie. Quelle puissance ! Le sacrifice de Jésus a une puissance extraordinaire de guérison, de sanctification, de purification, de délivrance. Le diable ne peut rien faire contre le sacrifice de Jésus. Nous ne pouvons rien mettre face au diable, mais nous pouvons avoir cette foi vivante en Jésus. Il est obligé de battre en retraite. Et puis souvenons-nous que le sang de Jésus, la première, Pâque dans Exode 12, quelle puissance ! Dans Exode 12, nous voyons que les premiers-nés du peuple hébreu ont été préservés parce que le sang a été appliqué sur les poteaux et sur les linteaux. Quelle puissance ! L'ange exterminateur est passé par-dessus, c'est ça la Pâque, passé outre. Il est passé par-dessus, il a préservé tous les premiers-nés des Hébreux et tous les premiers-nés des Égyptiens sont décédés. Quelle puissance ! Notre assurance et notre certitude est basée aussi sur la parole de Dieu. Cette parole, elle a une autorité, elle a une puissance, elle a une profondeur. Vous voyez, dans cette même épître, 1 Jean 2,14, il est dit « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Nos pensées, nos convictions propres n'ont pas de puissance, pas d'autorité. » Mais la parole de Dieu a autorité et puissance. L'enfer ne peut pas tenir face à la parole de Dieu. Et Jésus nous a fait une démonstration dans Matthieu 4 et dans Luc 4. Il y a une démonstration extraordinaire face au diable. Il y a eu 3 versets de cités par Jésus. 3 versets. Et le diable a été obligé de battre en retraite. Ce n'est pas nos idées qui font fuir le diable, ce n'est pas nos cris, ce n'est pas nos agitations, mais ce qui fait fuir, c'est la parole de Dieu. Quand nous y ajoutons la foi, quand nous nous confions dans le Seigneur, le diable ne peut pas nous toucher. Quelle certitude ! Et notre salut, il a été révélé par la parole. Le sacrifice de Jésus a été révélé par cette parole. Cette parole doit habiter nos cœurs, influencer nos pensées, diriger nos choix, nous conduire dans la vie. Alors il est dit je reviens au verset que nous avons lu en introduction, petits enfants, ça nous parle de notre faiblesse, de nos limitations, petits enfants, ça nous parle de notre manque de connaissances, petits enfants. Mais en même temps, il nous est dit, demeurez en lui. Notre faiblesse et demeurer en lui, c'est notre force. Jésus, c'est notre sagesse, c'est notre connaissance. Jésus, c'est notre sanctification. Demeurer en lui, c'est son œuvre en nous qui va nous préserver et qui va nous donner cette assurance. Et ça ne vient pas de nous. Nous sommes faibles, les uns et les autres. Nous sommes faibles, nous sommes limités. Nous sommes capables de nous égarer, de nous tromper, ça nous arrive, ça m'arrive. Nous sommes faits ainsi, mais nous ne voulons pas regarder les uns sur les autres, mais nous voulons regarder à Christ. Et lui, il est le fidèle, il est le véritable. Lui, il ne bouge pas, il ne change pas, il est parfait. Il dira, qui me convaincra de péché ? Notre garantie, c'est Christ. Et nous devons nous attacher d'autant plus à lui. Petits enfants, notre faiblesse, demeurez en lui, notre force. C'est l'expression de Jean, demeurer en lui, en Christ. C'est son expression en lui. Et nous la retrouvons dans Jean 15, quand il parle de son enseignement sur le cep et sur le sarment. Demeurez en lui. Est-ce que c'est facile de demeurer en Christ ? C'est un combat, hein ? C'est un combat. La chair veut toujours prendre le dessus. Nos pensées veulent toujours être là. Nos justifications veulent toujours être là. demeurer en lui, c'est s'abandonner en lui. C'est le laisser agir. C'est laisser son œuvre se faire en nous par le Saint-Esprit, par la parole. Et ça, c'est humiliant pour la chair. Et la chair ne veut pas. Vous voyez, le combat que nous avons, c'est pas les uns contre les autres. Le combat, c'est contre les dominations, bien sûr, mais c'est aussi contre notre propre chair. Que nous puissions, eh bien, la sujettir et que l'Esprit de Dieu puisse prendre le dessus. L'œuvre de Dieu, elle est profonde, afin que nous ayons cette assurance. Sa vie de Jésus, sa nature, ses sentiments, sa parole, la même nature que Christ. Vous savez qu'au ciel, il n'y aura pas d'étrangers. Pas d'étrangers, je ne parle pas de nationalité. Hein. Je ne parle pas de couleur de la peau, puisqu'il y aura des gens de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Dans le ciel, il n'y aura pas de racisme, ça, c'est clair. Mais il n'y aura pas d'étrangers. Comment ? Il n'y aura pas d'étrangers dans le sens, personne ne peut entrer s'il n'a pas la nature de Christ. Il ne peut pas entrer dans le ciel s'il n'est pas né de nouveau, s'il n'a pas reçu l'esprit de vie, s'il n'a pas vécu pour Christ ici-bas et laissé vivre Christ en lui, sa nature, ses sentiments, son œuvre en nous, il ne peut pas entrer au ciel. Il n'y aura pas d'étrangers dans ce sens. Et si nous avons été étrangers avec Jésus sur la terre, nous ne pouvons pas aller au ciel. Il faut demeurer en lui. Toute la Bible, et là l'apôtre Jean, on dirait qu'il recentre en disant « Bientôt Jésus va revenir ». Pour qui avons-nous vécu ? Pourquoi avons-nous vécu sur la terre ? C'est la question que nous pouvons nous poser, et ça chacun peut répondre pour sa part. Pour qui avons-nous vécu ? Pourquoi avons-nous vécu ? Qu'est-ce que nous avons investi, nos sentiments, nos élans, pour qui ou pourquoi ? Jésus en parle et il dit « Là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. » C'est des questions que nous nous posons parce que eh bien, Jésus va revenir bientôt. Et je crois que, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons préparer et nous devons aider et nous devons nous préparer et être prêts pour le retour du Seigneur. Que nous ne soyons pas comme la génération de Lot ou comme la génération de Noé, parce qu'ils ne faisaient rien de mal. Ils se mariaient, mariaient leurs enfants, achetaient, vendaient, etc. Ils ne faisaient rien de mal. Mais quand l'arche a été fermée, ça a été terminé. Parce que Dieu, eh bien, il n'était pas dans leur vie, dans leur programme, il n'y avait pas le Seigneur qui était là. Alors que le Seigneur nous aide. Alors, assurance ou confusion ? Il n'y aura que les deux. Assurance ou confusion ? C'est ce que nous pouvons nous poser. Dans l'évangile de Matthieu, par exemple, au chapitre 7, il y a des croyants qui sont venus vers Jésus et qui lui ont dit « Seigneur, nous avons fait tellement de choses pour toi. Nous avons chassé des démons. Nous avons fait beaucoup de miracles par ton nom. Tu as enseigné dans nos rues. Nous avons, etc. » Et Jésus leur dira « Je ne vous connais pas. » Et le texte grec, c'est « Je ne vous ai jamais connu ». C'est étonnant ce que le Seigneur leur dit. Pourquoi ? Parce qu'ils mettent en avant ce qu'ils ont fait. Mais Jésus leur dit en quelque sorte « Je n'ai jamais eu de communion intime avec vous. Ma nature n'est pas en vous. Mes sentiments ne sont pas en vous. Ma vie n'est pas en vous. Vous êtes servis du nom de Jésus pour faire des œuvres. Mais moi, je ne vous connais pas. » Voyez, notre assurance, elle ne peut pas être dans ce que nous faisons, mais notre assurance, elle doit être dans ce que Jésus a fait, sur la croix, bien sûr, à la résurrection, mais ce qu'il fait aussi dans notre cœur et dans notre vie, son œuvre, elle doit progresser. Aux Philippiens, Paul dira, mettez en œuvre le salut, mettez-le en œuvre. Ça veut dire quoi ? Je suis sauvé parce que j'ai répondu à l'appel, j'ai demandé pardon. Mais ce salut, ce n'est pas juste le jour où j'ai répondu à l'appel, je me suis fait baptiser, ce n'est pas juste ça, ça c'est que le départ. Mais après, ce salut, il doit se développer. la vie de Jésus doit se développer en chacun d'entre nous, afin que nous puissions être dans le ciel non pas comme des étrangers, mais comme des gens de la maison, des concitoyens des saints, que nous puissions faire partie de cette famille, de cette épouse de Christ. Alors, ne mettons pas en avant ce que nous faisons. Ce que nous faisons, ce n'est pas ce qui est important. Et au jour du jugement, ça n'aura aucune valeur, même si nous avons fait beaucoup de choses. Mais ce qui aura de la valeur, c'est le sang de Jésus. C'est la parole de Dieu, c'est la foi en Jésus, c'est la grâce. C'est ce qui permettra, eh bien, que nous ayons de l'assurance. Et puisque l'Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, ce matin, nous devons pouvoir avoir de l'assurance. Déjà. Et si quelqu'un n'a pas cette assurance, eh bien, il faut se placer devant Dieu et crier à lui et lui dire « Moi, je ne suis pas sûr de mon salut, je ne suis pas sûr que la vie de Christ est en moi, je ne suis pas sûr d'être né de nouveau. » Il faut se placer devant Dieu parce que c'est une expérience, moi, je ne peux pas la produire, mais c'est que Dieu qui peut produire cela dans nos cœurs et dans nos vies. Et si quelqu'un ne l'avait pas, eh bien, ne partez pas de ce lieu en disant « Moi, je ne suis pas sûr... Moi, je vis pour moi sur la terre, je ne suis pas sûr du tout d'être sauvé, de partir. » Eh bien, Dieu peut nous donner une assurance et une certitude ce matin. Amen, ce matin. Si quelqu'un ne connaissait pas le Seigneur, eh bien, tourne-toi vers lui. Donne-lui ta vie. Tourne-toi et vis pour lui. Parce que le salut, ce n'est pas « j'ai accepté Jésus et je continue à vivre pour moi ». Ça, c'est pas du tout. Mais si nous acceptons Jésus, ça veut dire nous acceptons de suivre ton enseignement. Nous acceptons de suivre eh bien, ta parole, de suivre ce que tu nous demandes, de faire ta volonté, de glorifier ton nom, de vivre pour toi. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça doit être le motif de nos vies, la gloire de Dieu dans notre vie. Le salut, c'est ça. C'est quand cette semence a été plantée du salut, eh bien, elle va se développer et Jésus va grandir en nous. Il faut qu'il croisse Jésus et que je diminue. Que nous ayons de l'assurance, que nous ayons de l'assurance, que nous soyons debout lors de son avènement, car tous les jours, nous devons vivre en demeurant en lui. Vous savez que Christ est notre garantie. Il est notre garantie. Nous voulons vivre en lui. Tout veut nous éloigner de ses fondements. Tout. Vous avez vu combien les pensées s'agitent, combien la pression, combien le stress, combien les soucis, combien de choses veulent nous voler les pensées captives en Christ, combien de choses veulent nous voler le temps de prière, combien de choses veulent nous voler la méditation de la parole, combien de choses veulent nous voler ces moments de louange où nous sommes seuls et nous sommes devant Dieu et nous le célébrons, nous le louons, ils veulent nous le voler. Combien de choses, le diable bien sûr, le monde, l'esprit de ce monde, mais aussi la chair, on a toujours des choses à faire, occupées et préoccupées. Des fois, même seul, je ne sais pas si ça vous arrive, mais aussi, on est préoccupé encore. On se dit, là, je suis seul, je suis tranquille, rentre dans ta chambre, ferme la porte. On se dit, mais même là, eh bien, on a pas de... Il faut combattre, c'est un combat. C'est un combat de pouvoir vivre en lui, pour lui, par lui, c'est un combat. La Bible nous donne tous les renseignements, que la parole habite abondamment vos cœurs, cette parole de Christ. Alors tout veut nous amener dans l'agitation, dans l'aveuglement spirituel. Vous savez qu'il n'y a rien de pire que l'incertitude. Quand on ne sait pas, par rapport à l'avenir, il n'y a rien de pire. On ne sait pas. Mais la Bible nous donne des certitudes, des assurances. La Bible veut nous communiquer cette assurance dans notre cœur. Comment des hommes comme Paul disent « j'ai l'assurance » que ni la mort, ni la vie, ni les dominations, rien ne pourra... Comment pouvait-il dire cela? Ce n'est pas par lui-même, mais c'est par Christ. Jean le dit là, afin que nous ayons de l'assurance. Il est sur cette île, il est un vieillard, il est tout seul, mais Dieu est avec lui. Et Dieu le fortifie, lui communique des choses et il nous dit, voilà, l'assurance c'est ça. Avoir des certitudes le jour où Jésus va revenir. Ayons Nous prions pour que nous ayons de l'assurance en attendant Jésus. Vous savez qu'il n'y aura qu'un départ. On ne pourra pas dire, oh là, je ne m'étais pas préparé, vraiment, je n'avais pas bien compris, ou j'avais été superficiel. Ou... Mais non, il n'y aura qu'un départ. Que le Seigneur nous aide à ne pas être éloignés dans la confusion, dans la honte, mais d'avoir de l'assurance, d'être debout et de dire, Seigneur, voilà, par ta grâce, eh bien, je t'ai servi, j'ai fait ce qu'il fallait, par ta grâce, j'ai commis des erreurs, mais le Seigneur pardonne nos erreurs. Mais il veut agir. Dans Colossiens chapitre 3 et verset 2, attachez-vous aux choses d'en haut. C'est pour quand qu'il faut s'attacher aux choses d'en haut? C'est quand? C'est maintenant. Hein? Est-ce que nous sommes attachés aux choses d'en haut? Est-ce que nous y sommes attachés? Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Oh, comment? Je vais me détacher des choses de la terre? Est-ce que vous êtes détachés des choses de la terre? Est-ce que nous sommes détachés des choses de la terre? J'entends pas de amen. En tous les cas, c'est ce que Paul dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Ah ! Je parle à des morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Tout ce que nous aurons vécu pendant ces années de vie chrétienne, nous le retrouverons au dernier jour. Si nous avons vécu pour nous d'une manière en dilettante, superficielle, si nous n'avons pas suivi les enseignements de la parole, si nous n'avons pas suivi les injonctions du Saint-Esprit, si nous ne nous sommes pas laissés briser, travailler, façonner, si nous sommes passés à côté de tout cela, nous retrouverons au dernier jour, quand Jésus paraîtra, il n'y aura pas de magie. On le retrouvera. Mais par contre, si nous avons été sérieux, si nous avons souffert pour le Christ, si nous avons laissé cette œuvre nous transformer, nous façonner, si nous avons laissé Jésus, la vie de Jésus en nous, alors on le retrouvera aussi. Frères et sœurs, il n'est pas trop tard pour revoir les fondements de notre vie, pour revoir nos priorités, pour revoir ce qui est précieux. Il n'est pas trop tard. Ce matin encore, nous pouvons dire, Seigneur, je veux relire ta parole avec beaucoup plus d'attention et chaque fois dire, mais est-ce que ça, je le vis? Est-ce que ça, je l'ai appliqué? Est-ce que ça, j'y crois? Est-ce que ces versets-là, est-ce que ces choses profondes, elles font partie de ma vie? Ces fondamentaux, est-ce qu'ils font partie de ma vie? Est-ce que j'ai l'assurance que si tu reviens maintenant, je pars avec toi? Ce n'est pas nos pensées, ça ne tiendra pas, mais c'est l'œuvre de Jésus. Frères et sœurs, il n'est pas trop tard. N'oublions pas que ce qui a été pendant toute notre vie, c'est ce qui sera au dernier jour. Et j'aimerais lire un dernier verset dans l'Apocalypse, chapitre 22, c'est notre espérance, c'est le verset 20. « Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. » Amen. Viens Seigneur, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Avec vous tous. Que le Seigneur nous aide à vraiment avoir les choses qui nous donnent de l'assurance appliquées à notre vie. Appliquées à notre vie par le Saint-Esprit et nous le recevons par la foi, que nous ayons ces éléments. Jamais ne mettons en avant ce que nous avons fait nous. Mais c'est l'œuvre de Jésus qui nous permettra d'entrer au ciel. Que Dieu vous aide, on va prier. Seigneur, merci encore pour ta grâce. Merci pour ta bonté à notre égard.